Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien.
Bonjour et bienvenue à ce podcast de LSA, Leading Swiss Agencies. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec François-Louis de l'agence Mind pour parler de communication durable et de communication responsable. Mon nom est Anna Gallet, je suis Managing Director chez Weber Shandwick et je suis responsable du pôle santé et bien-être des consommateurs dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. J'entame ma 8e année chez Weber Shandwick, qui est une agence de conseil en communication. Nos racines sont dans les relations presse-relations publiques, dans la partie de la communication qui vise à capter l'attention par la force de nos idées, par la force de nos messages et nos histoires, plutôt que par l'importance des budgets publicitaires, même si aujourd'hui on développe des campagnes à 360 degrés. François-Louis.
Eh bien, merci beaucoup, Anna. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui et ravi de vous accueillir chez Mind. Moi, je suis François-Louis Noël, directeur de l'agence Mind. Nous sommes à Genève et nous accompagnons nos clients sur l'ensemble de leurs enjeux de communication, donc à la fois les stratégies, communication, marque, digital, et puis ensuite le déploiement du storytelling via la création des contenus pour pouvoir les diffuser sur tous ces canaux qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et donc effectivement, je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet de la communication durable qui est un sujet brûlant aujourd'hui. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule parce que ce qui est vrai, c'est qu'on voit en fait par rapport à tous ces enjeux, hein, durabilité, de responsabilité, qu'on a quand même des grandes tendances de fond qui sont à l'œuvre dans la société. Et donc c'est pas un hasard en fait si nous, en tant que communicants, on est mobilisés sur ces sujets aujourd'hui. C'est parce que dans le fond, on est dans le flux en fait de l'actualité et de ce qui fait en fait encore une fois les tendances de fond aujourd'hui, et j'allais dire dans les sociétés occidentales, et puis évidemment plus particulièrement en Suisse, puisque nous on est au cœur du sujet. Voilà, en termes de tendance, après on va pas faire une liste à la Prévert comme on dit, mais disons que ce qu'on peut quand même noter, c'est enfin en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait cette prise de conscience qui a été, alors on va pas dire qu'elle a été soudaine des consommateurs et des employés, mais on a vu qu'il y a une montée en puissance depuis les 10 dernières années, plus particulièrement depuis les 5 dernières années, avec une accélération depuis le Covid. Donc prise de conscience sur tous ces sujets, et on voit très bien dans le bruit médiatique aujourd'hui en fait que c'est la majorité des sujets dont on parle, c'est-à-dire tout ce qui est lié en fait à la crise climatique, le réchauffement, les modifications de comportement, les tendances, voilà, tout ça en fait est aujourd'hui au cœur des débats. Et donc on voit que la prise de conscience finalement de l'individu en tant que consommateur, donc comment est-ce que moi j'achète des choses, comment est-ce que je modifie mes comportements en fonction de ces sujets-là, et puis la prise de conscience aussi des individus en tant qu'employés, c'est-à-dire parce que voilà, hein, le travail c'est aussi une grande partie de la vie, et donc comment est-ce que je choisis finalement l'organisation dans laquelle je vais travailler, ou comment est-ce que j'organise mon travail. En fait, on voit que ces problématiques-là sont aujourd'hui au cœur des choix des uns et des autres.
Oui, je te suis tout à fait, François-Louis, sur le fait que il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte en ce qui concerne les problématiques de communication durable et de communication responsable. C'est vrai que notamment en Suisse, il y a une forte conscience au niveau de tout ce qui est environnemental, mais c'est vrai aussi que le Covid a changé les choses, et aussi simplement le fait qu'on voit les conséquences pratiques notamment du changement de climat. 2023 a été l'année la seconde plus chaude jamais enregistrée en Suisse. Donc c'est vrai que au-delà d'une conscience de il faut penser à la planète, quand on voit concrètement l'impact notamment en termes de changement climatique, c'est je dirais que ça participe à la prise de conscience au niveau des problématiques. Tu as parlé de cette conscience environnementale. J'ai regardé un peu les chiffres du point de vue des consommateurs. La protection de l'environnement, le changement climatique, les catastrophes climatiques, c'est le deuxième sujet de préoccupation en ce moment en Suisse. Le deuxième sujet après la santé, et on vient de voir que la santé est aussi liée à tout ce qui est changement climatique. Je te suis aussi tout à fait sur le fait que au niveau des employés, c'est un domaine qui est extrêmement important. Par le passé, peut-être que quand on cherchait sa prochaine entreprise, on se demandait quelle était la stabilité financière de cette entreprise. On s'intéressait à son environnement de travail, à ses conditions de travail, à son salaire. Aujourd'hui, on se pose des vraies questions sur quelle est l'entreprise que je vais rejoindre, quelles sont ses valeurs quel rôle cette entreprise prend par rapport à tout ce qui est responsabilité, tant au niveau environnemental qu'au niveau sociétal. Donc c'est vrai que c'est une vraie demande, tant au niveau des consommateurs qu'au niveau des employés. Et on voit que, du coup, les entreprises s'adaptent aussi. Il y a une vraie prise de conscience au niveau des entreprises sur le fait qu'elles doivent s'adapter en termes de processus et de stratégies commerciaux à plus de durabilité. C'est quelque chose qui est présent dans 79% des entreprises en Suisse en termes de préoccupations.
Tout à fait. Non, et c'est vrai. Hein, c'est pour ça que ça veut dire que nous, en fait, encore une fois, en tant qu'agence conseil, etc., en communication, on est de plus en plus sollicité pour prendre en compte ces éléments-là, parce que, en fait, c'est des éléments qui sont maintenant structurants. On voit aussi que c'est des éléments qui sont qui ne génèrent pas l'unanimité. C'est-à-dire que après, dans certaines catégories de la population, voilà, il y a un grand accord sur les constats et puis éventuellement des solutions. Mais en revanche, c'est quand même un sujet qui est clivant au sein de la société. Et on voit que cette nécessité finalement d'aller vers plus, vers une transition, en tout cas de nos sociétés qu'on appelle thermo-industrielles, vers plus de durabilité, de responsabilité, aussi les impacts sociétaux, on voit que ça génère de l'autre côté tout un pan de la population qui ne veut pas forcément aller dans cette direction-là, parce que ça remet en cause un certain nombre d'habitudes qui ont été prises les 50-70 dernières années. Et donc, ce n'est pas un sujet qui est aujourd'hui unanimement partagé. Et donc, même si parfois, il y a certaines catégories de la population qui se disent « mais je ne comprends pas, tout le monde devrait partager ce constat », ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est d'autant plus important, nécessaire d'avoir une approche qui est consciente de ça et de se dire voilà, on n'est pas sur non plus, même si c'est des grandes tendances, on n'est pas sur une unanimité, et il faut réussir à convaincre, ou en tout cas il faut expliquer, il faut informer, et puis à un moment donné il faut avoir une prise de conscience. Après, ma foi, on est quand même dans des démocraties, donc c'est la majorité qui décidera à la fin, mais voilà. Et donc d'où l'importance de qu'on puisse intervenir. Et puis je rajouterai un truc, c'est que on est tous aussi assez ambivalents finalement par rapport à ces problématiques-là, parce que même moi, en tant qu'individu et citoyen, si je suis convaincu du fait que aujourd'hui on a quand même moins de neige l'hiver, on peut moins skier, que tout ça c'est pas par hasard, d'un autre côté ça va peut-être pas m'empêcher de me faire plaisir en achetant un truc chez Chine, parce que ça aura pas été cher, que mes enfants l'auront demandé et tout ça. Et donc en fait on a toujours cette espèce d'ambivalence qui drive notre comportement et qui fait qu'à un moment donné on peut être blanc et puis à un moment donné on peut être noir, et donc c'est aussi des éléments qui sont pas évidents. Et donc comment est-ce qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là?
Tout à fait. C'est tout ce qui est sujet de communication responsable et de communication sur la durabilité. C'est un sujet qui est, comme tu le disais, polarisant. C'est aussi un sujet qui est extrêmement complexe, qui peut générer beaucoup de questions, beaucoup d'anxiété. On aimerait avoir des solutions simples, comme tu disais, mais c'est très clairement un domaine sur lequel il n'y a pas de solution simple. Je pense, tu parlais de tendance, il y a une dernière tendance que je rajouterais, qui est une tendance de fond aussi, qui est vraie en particulier sur le sujet, mais qui est aussi une tendance qui existe au-delà, qui est ce manque de confiance globale vis-à-vis des institutions. On vient de sortir de Davos et du Forum économique de l'environnement, de Forum économique mondial, et un des sujets principaux et qui est très préoccupant pour les entreprises et notamment pour les directeurs de communication de les entreprises, c'est ce manque de confiance et ce qu'on appelle distrust, mais aussi disinformation. Et je pense, François-Louis, que tu parlais de l'importance de communiquer et d'éduquer. Je te suis entièrement, mais il faut aussi avoir conscience du fait que la parole qui vient des entreprises est une parole qui peut être aussi mise en question, qui n'est pas acceptée comme la vérité vraie, d'où l'importance d'adapter certaines stratégies. Et on va en parler très concrètement, notamment avoir des partenaires aussi en qui la crédibilité est plus forte et qui permet de renforcer la confiance justement dans tout ce qui est ce discours de communication durable et responsable.
Tout à fait, non, et c'est effectivement le cas, hein. Cette perte de confiance elle est problématique, et donc elle nous impose, nous, en fait, de répondre à ces questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive, en tout cas comment, quand on est une institution ou une entreprise, on arrive à se rapprocher en fait des personnes à qui on parle pour avoir une parole qui est une parole qui est crue et qui n'est pas juste une parole top-down. Et donc on doit absolument pas avoir une posture de donneur de leçons, parce qu'en fait on voit bien aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, et au contraire que c'est totalement improductif. Et donc il y a effectivement non seulement un enjeu de message, mais aussi un enjeu de comment on diffuse les messages, donc de posture par rapport à ces sujets là donc effectivement c'est pas évident. J'allais dire, finalement, c'est, voilà, on n'est pas sur un sujet qui est un sujet comme les autres.
Ah, entièrement. En fait, effectivement, au-delà de la problématique générale qu'on vient d'évoquer, d'être cru et d'être légitime dans ce qu'on dit, il faut bien garder en tête que tout ce qui est communication durable et responsable, c'est un sujet, comme tu disais, c'est pas un sujet comme un autre. Il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut avoir en tête, pas parce que c'est des choses qui devraient empêcher de communiquer, mais simplement parce qu'il faut les connaître pour pouvoir les éviter. Le premier écueil qui vient en tête, je pense, quand on travaille dans le domaine de la communication sur ces sujets-là, c'est le greenwashing, qu'on appelle éco-blanchiment, en bon français.
Rien à voir avec la drogue. Hein.
Et donc le greenwashing, qui est en fait le fait de pour des entreprises de faire des affirmations qui enjolivent, voire qui trompent, et qui peuvent être sans fondement en ce qui concerne la réalité du respect de l'environnement. Donc ce sont typiquement des claims, des bénéfices qui pourraient être perçus comme qui sont de temps en temps fallacieuse, voilà, des termes qu'on a vu fleurir, hein, sur les 15-20 dernières années de marketing, comme ce produit est vert, ce produit est écologique, hein, ce produit est respectueux de l'environnement, ou ce service l'est. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui génère un levier de bouclier, qui est très très mal perçu, et à raison, parce que les attentes sont très claires aujourd'hui sur le fait que quand on fait des déclarations au niveau de tout ce qui est environnement, de responsabilité, ce sont des déclarations qui doivent être vraies, qui doivent être précises, et qui doivent recouvrir vraiment une réalité.
Tout à fait. Et ça, on voit très bien que ça rejoint cette notion de perte de confiance, hein. C'est qu'à un moment donné, quand je dis des choses qui ne sont pas vraies, parce que j'ai envie d'être dans une tendance, parce que j'ai envie de capitaliser d'un point de vue d'image, parce que j'ai envie de vendre plus de produits, je me dis tiens, je vais m'engouffrer là-dedans. Et en fait, on voit très bien que ça participe en fait à la fin de la perte de confiance, parce que derrière ce que je dis, mais c'est un peu toujours la même chose. Nous, on nous dit en tant que communicant, il faut faire ci, ça. Mais on n'est pas des magiciens. À chaque fois, on a ce qu'on appelle les USP, Unique Selling Proposition. Quand on a une USP à proposer aux consommateurs, il faut que derrière il y ait des éléments de preuve, donc ce qu'on appelle les reasons to believe. Ben, sur la communication durable, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, on dit quelque chose, il faut qu'il y ait une raison de croire ce qu'on dit. S'il n'y a pas de raison de croire, à un moment donné, ben, c'est effectivement ce qu'on dit, c'est l'éco-blanchiment, et donc à la fin, c'est je veux dire, les gens sont plus dupes aujourd'hui, donc ils voient très bien, en fait, ça peut marcher une fois, deux fois, et la troisième fois, ça ne marche pas. Sauf que sur la durée, s'il y a plein de gens qui font ça, ben, à la fin, il en résulte effectivement cette notion de perte de confiance. Donc ça, c'est un vrai écueil, et nous, notre rôle par rapport à ça, c'est de dire voilà, allons consciemment et travaillons sur l'image d'une institution ou d'une entreprise durable et responsable, mais ayons des vraies choses à dire. Et si on n'a rien à dire, vaut mieux rien dire pour le coup.
Tout à fait. Et c'est fou de devoir le rappeler, mais voilà, c'est aussi simple que si on veut aller dans le domaine des allégations qui sont sur l'environnement, il faut simplement s'assurer que ce sont des allégations qui sont vraies et qui peuvent être prouvées, qui sont précises. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas être si compliqué que ça, puisque les entreprises le font sur tous les autres domaines. Elles devraient naturellement le faire aussi sur le domaine de l'environnement. En revanche, et je ne sais pas si c'est ton expérience aussi, François-Louis, mais à cause de toutes ces questions greenwashing, il y a un autre écueil que j'ai vu, qui est, je vais encore utiliser un terme anglais, le greenwashing, qui est aussi ce qu'on appelle de l'éco-silence. Et c'est le constat que, par crainte d'attaque sur tout ce qui peut être claim ou tout ce qui peut être déclaration de ce que fait une entreprise au niveau de greenwashing, les entreprises préfèrent ne pas dire les choses et préfèrent ne pas communiquer. Et moi, j'ai été confrontée à des situations où je parle à des dirigeants et ils me disent, voilà, on fait ça et ça. Et je suis épatée. Il y a plein de choses que vous faites sur le domaine environnemental pour réduire votre impact, voire pour aller au-delà. C'est super. Il faudrait le dire. Ah oui, mais je ne suis pas sûre. Peut-être, mais je ne sais pas. Ça pourrait générer des réactions négatives. Donc, l'éco-silence, ça existe. Et je pense que c'est aussi notre rôle de conseil qu'on apporte aux entreprises, ce dont tu parlais, quand une entreprise ne fait rien, de leur dire vous devriez faire quelque chose, mais faites les choses avant de le dire. Mais pour les entreprises qui font les choses, aussi de pouvoir les accompagner et les rassurer sur vous faites des choses, c'est mieux que ce que font d'autres. Tu disais, il y a un USP et il y a ce que vous devez faire, le minimum légal, mais vous faites beaucoup plus que ça. Oui, c'est des choses que vous pouvez revendiquer.
Non, tout à fait. Et après, on peut le comprendre parce que c'est vrai qu'on est quand même aussi sur des problématiques qui ont qui présentent aussi des risques qui peuvent être des risques juridiques par rapport à ça, sur les institutions, les entreprises. Parce que, évidemment, quand on a une prise de parole, il faut vraiment qu'on soit baqué derrière parce qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, on peut comprendre qu'il y a une frilosité par rapport à ça. Mais normalement, encore une fois, si on fait les choses en ordre, théoriquement, on peut les dire sans avoir la crainte derrière d'avoir en tout cas des problèmes juridiques. Donc si on n'a pas de problème juridique, après, on peut effectivement avoir des consommateurs ou des personnes qui ne vont pas être contentes, qui vont pouvoir critiquer ou quoi. Mais je crois qu'il faut aussi pas avoir peur de la critique, comme tu l'as dit. À un moment donné, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des médias digitaux qui permettent en fait cette interactivité qu'il n'y avait pas avant. Avant, on se dit, on était au comptoir du café, puis on racontait. Maintenant, on est plutôt sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, dans le fond, de voir finalement quelles sont les réactions des uns et des autres, et qu'il ne faut pas avoir peur de ces réactions. En revanche, il faut être capable d'y répondre de manière très factuelle. Et encore une fois, c'est sûr que si on fait du greenwashing, on ne pourra pas trop y répondre, et donc on ne sait pas très bien. Donc tout ça, en fait, à la fin, c'est un peu la quadrature du cercle. Il faut faire les choses, dire les choses qu'on fait de manière simple, répondre aux critiques de manière transparente, et normalement, voilà.
Et je pense qu'on va parler un peu de boîte à outils et de nos conseils en tant que, que professionnels dans le secteur du conseil sur comment approcher ces communications. Mais même avant d'y entrer, et quelque chose qui est vrai sur ce domaine de communication durable et responsable, mais qui est vrai dans l'absolu, c'est l'importance de la transparence. Et pour moi, j'aimerais que après l'éco-blanchiment et cette ère d'éco-silence, on aille vers plus d'éco-transparence. Parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on peut contrer cette tendance dont on parlait, qui est cette tendance de manque de confiance. Pour pouvoir donner confiance, rien de mieux que d'ouvrir un peu ses portes et de montrer ce qu'on fait, d'être transparent sur les choses qu'on fait, peut-être aussi sur les choses qu'on peut faire mieux. Parce que, et je pense qu'on va en parler, mais tout ce qui est communication durable, communication responsable, il y a des entreprises qui font des choses, il y a toujours moyen de faire mieux.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette notion de transparence, elle rejoint aussi un élément qui est assez spécifique, c'est que, et on le disait tout à l'heure dans les tendances, c'est que en fait, cette notion de responsabilité sociale et environnementale, c'est un pilier aujourd'hui qui est de plus en plus important, en tout cas un critère de choix des personnes qui vont rejoindre en fait une entreprise ou une institution dans le cadre du recrutement. Et donc, cette transparence, elle est aussi attendue finalement des candidats. C'est-à-dire que en fait, on veut maintenant vraiment comprendre ce qu'on va avoir et puis clairement avoir des éléments en fait hein, donc et donc ces éléments donc ces questions là elles sont d'autant plus importantes qu'aujourd'hui on voit qu'on a une pénurie de talents hein, on le dit partout depuis la crise du Covid parce que il y a eu des modifications de comportement des gens qui ont quitté, il y a aussi des raisons démographiques puisque dans toutes les sociétés occidentales on a aussi aujourd'hui une grande cohorte des gens qui quittent le marché du travail, donc voilà il y a une pénurie de talents. Donc maintenant, comment est-ce qu'on attire les meilleurs ? Ben, ces questions-là, ce sont des questions en fait, qui sont maintenant centrales dans la notion de recrutement, parce qu'en fait, autour de la notion de responsabilité sociale et environnementale, ben, il y a tous les enjeux effectivement, de bien-être au travail, de sens aussi qu'on peut donner, hein, pourquoi est-ce que je fais ça, etc. Et donc on voit que c'est en fait des éléments qui viennent en degré d'importance assez haut maintenant dans les attentes. Et la manière de communiquer ces éléments pour une institution ou une entreprise vis-à-vis donc des personnes qu'elle souhaite attirer, recruter ou même fidéliser, c'est aussi important. Et donc, effectivement, on parlait de transparence. Je pense qu'une attente vis-à-vis de ça, c'est pareil, c'est de la transparence. C'est de dire aux candidats, de dire aux collaborateurs ce qu'on fait et de ne pas mentir et de ne pas embrouiller dans des choses. Mais en revanche, de aussi pouvoir revendiquer ces éléments. Je pense que l'éco-silence, c'est une mauvaise chose dans la notion d'attraction des talents parce qu'en fait, on passe à côté de gens pour qui c'est important.
Tout à fait. Je vais pouvoir donner un exemple très concret parce que je pense qu'on le sait et les personnes qui nous écoutent le savent aussi. La pénurie de recrutement, d'avoir des talents qu'il faut, c'est une préoccupation vraiment vraiment importante. L'exemple concret que je voulais donner, c'est chez Vabashanui qu'on avait lancé l'année dernière une initiative qui vise à traiter de la santé des femmes et limiter les biais sur ce domaine. Et on s'est engagé. Voilà, on a lancé une action pour dire voilà, on veut plus de health equality et on veut faire en sorte que le gap qui existe aujourd'hui entre la santé des femmes et le reste du monde soit diminué. Et c'est quelque chose, on ne l'a pas fait pour cette raison, mais on l'a entendu beaucoup dans les recrutements. J'ai entendu beaucoup dans les discussions avec des collègues, que ce soit en Suisse ou que ce soit à l'étranger, on me disait mais c'est chouette qu'on fasse ça, c'est super d'avoir une entreprise qui s'engage. Et puis voilà, moi, personnellement, ça me rend fière aussi. Voilà, je fais mon travail, mais ça me fait plaisir, ça me rend fière de faire aussi ce genre de choses et de voir, voilà, je suis au travail pour faire ce qu'on me demande de faire, mais je peux aller un peu au-delà. Il y a des choses qu'on peut faire en plus en tant qu'entreprise.
Tout à fait. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a des tendances de fond en fait qui dirigent finalement nos sociétés vers ces problématiques-là. On voit que c'est polarisant. On voit que c'est un sujet qui est pas facile à traiter parce qu'il est assez spécifique. Et donc maintenant, la question qui se pose pour nous en tant que, encore une fois, conseil en communication, c'est comment on accompagne finalement nos clients. Comment est-ce qu'on les conseille ? Une ligne directrice, est-ce qu'on a une méthodologie à suivre ? Alors moi je pense pas qu'il y ait des recettes qui soient toutes faites, mais néanmoins on a quand même des grandes étapes et ça on est assez d'accord je pense avec Anna sur ça, des étapes ou en tout cas des cases à cocher qui permettent en fait d'avoir une approche qui est un peu plus rationnelle que juste de l'intuition et puis de se dire à un moment donné voilà on prend le sujet, on le décortique et puis on essaie de trouver les solutions qui sont les plus pertinentes. Et j'allais dire pour moi le point de départ, et tu me diras si je dis faux, mais c'est vraiment sur ces sujets-là, c'est en fait, si on a une problématique qui nous est posée, c'est dire voilà, regardons déjà, faisons un benchmark finalement de ce que font les concurrents. Alors bon, c'est un peu une tarte à la crème parce qu'on fait toujours des benchmarks dans nos sujets de communication, mais je pense que là, c'est d'autant plus important en fait vraiment de se dire voilà, on est sur un marché, on a des concurrents directs, on a des entreprises qui sont périphériques et qu'est-ce que font ces gens-là ? Et après, on peut faire un benchmark qui vraiment s'appuie sur deux choses, c'est à la fois qu'est-ce qu'ils font concrètement, donc en vrai, c'est quoi les actions ? Et puis après, c'est quoi les actions questions de communication qui font autour de ça. Donc vraiment les deux aspects. Comme ça, on relie toujours le message avec quelque chose qui est une preuve, en fait. Et donc ça, ce benchmark, ça permet déjà de prendre conscience finalement des avantages, des inconvénients, des avantages compétitifs que certains auront développés par rapport à ça, et donc ça permet déjà une prise de conscience. Donc moi, c'est un peu, je dis toujours à ceux à qui ceux qu'on accompagne, je leur dis toujours, voilà, on commence par un benchmark, même léger, mais ça nous permet de déjà bien nous remettre des idées en place, et puis ensuite, après, on peut enchaîner sur la suite.
Alors, entièrement, je te rejoins, ce n'est pas étonnant, entièrement, sur l'importance de comprendre l'environnement dans lequel on est, qui est vraiment cette première étape. Et les entreprises le font, et tu disais, voilà, c'est la tarte à la crème, parce qu'on dit toujours ça. Oui. Sauf que les entreprises ne le font pas de façon systématique. Tout le monde a l'habitude de se benchmarker par rapport à ses concurrents en ce qui concerne son prix, en ce qui concerne la qualité de son produit, en ce qui concerne un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que cette problématique-là, au niveau de tout ce qui est communication environnementale, durable, responsable, ils le font, je dirais, un peu moins systématiquement. Et c'est vrai aussi que le landscape n'est pas forcément le même. Parce que typiquement, pour mon produit, peut-être que je me benchmarkerais vis-à-vis d'une entreprise X ou Y, mais quand je regarde par exemple le domaine de bénéfices qu'on donne à nos employés, ou quand je regarde l'impact qu'on a sur l'environnement et comment est-ce qu'on le réduit, en fait ça élargit l'horizon et on a peut-être l'idée aussi d'autres entreprises vis-à-vis de lesquelles on veut se benchmarker. Peut-être que quelqu'un qui est best in class, que je voudrais avoir comme modèle, ça sera une entreprise qui n'est pas directement dans mon secteur, mais je me dis voilà, au niveau de tout ce qui est communication responsable, voilà, cette entreprise, elle fait vraiment les choses bien et j'aimerais tendre vers ça. Donc voilà, c'est un exercice qu'on recommande systématiquement de faire, mais qui est du coup, je trouve, un goût un peu différent quand on le fait dans le domaine de la communication durable et responsable.
Tout à fait. Et la suite logique de ça après, c'est de bien comprendre les attentes finalement, les attentes de nos cibles. Savoir à qui on parle. Alors ça aussi, c'est un peu une tarte à la crème hein, dans notre domaine. Mais néanmoins, moi quand même, je le répète à chaque fois parce qu'on a toujours tendance un peu à généraliser sur la partie cible. Ah oui, on dit voilà, nos cibles, les gens, etc. Et je trouve que là, sur ce sujet-là, ça vaut la peine de rentrer dans le détail. C'est-à-dire finalement, à qui est-ce qu'on a envie de parler? C'est qui nos publics cibles? Et qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à ces sujets-là? Parce qu'en fait, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure dans les tendances, on voit très bien qu'il n'y a pas une unanimité. Donc il y a une variabilité en termes d'attente sur des publics, en fonction de là où ils habitent, en fonction de leurs habitudes socioculturelles, etc. Et donc de pouvoir vraiment bien identifier les publics et leurs attentes nous permettra de beaucoup mieux calibrer les messages et calibrer les preuves par rapport à ces messages-là. Et donc cette notion-là, elle est pour moi clé. Donc après le benchmark, c'est vraiment se plonger dans la tête de nos cibles et comprendre leurs attentes.
Comprendre leurs attentes, comprendre leur langage, comprendre aussi quels sont les domaines sur lesquels on peut potentiellement avoir plus, développer plus d'éducation. Et aujourd'hui, on a des outils magnifiques. Tu parlais de communication sur les réseaux sociaux. Il y a du social listening qu'on peut mettre en place qui nous permet exactement de faire ça et de comprendre quelles sont les attentes, les perceptions aujourd'hui, pour comprendre aussi comment notre entreprise est vue par rapport aux autres entreprises également. C'était ce dont on discutait auparavant. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien mieux que de comprendre où est la tête, quel est aujourd'hui l'état d'esprit dans l'environnement actuel pour pouvoir justement développer la communication qui nous permettra de focusser. Et je pense que c'est la troisième étape après cette première étape qui était ce benchmark concurrentiel et la deuxième étape de comprendre les cibles. La troisième étape, c'est d'identifier un white space, s'identifier un territoire où l'entreprise est crédible et peut se positionner, et puis ensuite de développer ce dont tu parlais, François-Olivier, USP, the Unique Selling Proposition, un message qui est unique pour cette entreprise.
Exactement, et donc effectivement on parlait des USP, mais c'est là où c'est important, parce que une fois qu'on identifie les attentes de nos cibles, donc on se dit voilà, comment est-ce qu'on arrive maintenant à répondre à ces attentes là comment est-ce qu'on arrive à formuler un message, quelle est la preuve en fait de ce message, en fait c'est beaucoup plus facile. Et donc et ça, encore une fois, c'est ces USP là et les preuves en fait qu'on va apporter par rapport à ces USP qui vont créer la colonne vertébrale de ce qu'on dit et qui vont en créer la crédibilité. Donc c'est là en fait où on doit gagner en, on arrive à gagner en proximité, en confiance. Et si je connais les attentes des gens à qui je parle, je peux leur formuler un message qui va être une réponse à ces attentes là. Donc j'augmente ma proximité, j'augmente le niveau de compréhension du message. Et puis par ailleurs en fait si je réponds à des attentes par des actions qui sont concrètes, j'augmente le niveau de confiance, puisque en fait je vends pas du vent, je dis les choses que je fais. Et normalement en fait cet élément là aujourd'hui il y a de plus en plus de certifications qui sont proposées, qui existent pour avoir en fait une espèce de légitimité. Et finalement c'est pas mal ces certifications, parce que elles permettent finalement à un moment donné de poser des jalons, puis dire voilà, on a fait ces choses là on obtient une certification par rapport à ces choses là donc c'est une certaine manière. Alors après on pourra dire oui, c'est un peu mercantile, ils vendent des certifications, tout ça, mais c'est quand même une manière de à un moment donné mettre un stempel sur ce qu'on fait. Et donc typiquement nous en communication en fait, le fait de travailler sur ces enjeux là ça peut aussi amener des entreprises à vouloir se faire certifier, et donc on peut aussi les accompagner dans cette logique là de certification. Comme ça on combine vraiment les deux, qui sont les actions qu'on mène qui à un moment donné sont certifiées, et puis les messages qu'on va diffuser par rapport à ces actions qu'on mène. Et là on voit très bien qu'on arrive à bien combiner les deux et donc à travailler ces items qui sont la proximité et puis la confiance.
Je suis entièrement d'accord avec toi sur l'importance aussi d'accréditation et de certification externe, parce que le moment où et c'était suffisant que je dise que mon produit est vert, comme on disait, voilà, aujourd'hui c'est du greenwashing, c'est certainement pas suffisant. L'autre élément qui pour moi est essentiel quand il s'agit de déterminer ces USP, ce messaging unique, c'est aussi de pouvoir se mettre d'accord avec l'entreprise avec laquelle on travaille sur quels sont nos KPI, comment est-ce qu'on va mesurer qu'on est arrivé à améliorer un certain aspect, que ce soit la confiance dans l'entreprise, que ce soit la reconnaissance de l'entreprise dans un domaine particulier, comme une entreprise qui a entrepris des actions favorables pour l'environnement. Si c'était l'objectif de la communication, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a réussi à éduquer nos consommateurs cibles par rapport à un domaine particulier. Et pour moi, dans tout ce qui est communication durable et responsable, c'est encore plus important, c'est toujours important, mais dans ce domaine-là, encore plus important, de pouvoir montrer l'impact qu'on arrive à générer à travers la communication et de montrer comment est-ce qu'on arrive à changer les attitudes, à générer plus de conscience peut-être écologique, comment est-ce qu'on arrive à montrer que voilà, on a réussi à bouger la perception d'un endroit A à un endroit B.
Totalement, et en plus ces KPIs après elles permettent aussi de travailler sur l'amélioration continue, parce que en réalité une fois qu'on a obtenu une certification, une fois qu'on a fait on a mis en place un certain nombre d'éléments pour dire ce qu'on fait, ce qui est important c'est de toujours avoir ça s'arrête jamais, c'est jamais fini, parce qu'en fait on continue toujours on essaie toujours de faire mieux, on essaie toujours d'entreprendre des nouvelles choses, c'est le principe du développement. Et donc ce monitoring là il se fait effectivement via les KPIs et donc c'est une nécessité pour moi aussi toujours de se remettre un peu en question, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment terminé, et puis toujours se dire voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer ci, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, peut-être qu'on n'a pas traité ce sujet là enfin vraiment avoir cette proactivité et puis pas s'endormir sur ses lauriers, parce que c'est là où on peut encore une fois être victime d'un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser si on n'a pas été vigilant. Donc c'est une vigilance de tous les instants.
Alors, je te rejoins tout à fait sur le problème, sur la question en tout cas de la vigilance. Et on en a parlé au départ, ce domaine de communication n'est pas un domaine comme les autres. Donc, dans tous les domaines, quand on va communiquer, il faut être préparé à gérer peut-être un ressentiment ou gérer des attitudes qui peuvent être négatives ou voire gérer des crises. Encore plus, je dirais, dans le domaine de la communication durable et responsable. Donc, le fait d'avoir bien fait son travail en amont, de comprendre quelles sont les attentes, mais comprendre aussi quelles sont les personnes qui ne seront pas forcément d'accord, ce qu'il y en aura. Si on parle bêtement de choses comme le changement climatique, c'est une notion qui, dans certains pays, fait consensus, dans d'autres pays, ne fait pas du tout consensus. Et quand on parle de changement climatique, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes qui disent « non, ça n'existe pas ». où oui, ça existe, mais en fait, l'activité humaine n'y est pour pas grand-chose. C'est des vraies réactions. Le fait d'avoir bien fait son travail en amont, de comprendre quelles sont les perceptions, permet de bien se préparer et de faire en sorte qu'on soit prêt à répondre à des questions en toute transparence. Voilà, on a déjà parlé, et je vous souligne encore cette question de transparence. Mais voilà, la préparation dans ces domaines-là est absolument essentielle. Préparer les dirigeants à la prise de parole, savoir quels sont les messages et de pouvoir anticiper la crise permet souvent d'éviter qu'une crise au niveau de la communication survienne.
Oui, tout à fait. Et on l'a vu, comme c'est pas un sujet comme les autres, effectivement, il n'y a rien de pire que d'être passif et d'être dans la réactivité, parce qu'en fait, c'est là où parfois il y a la panique, etc. Donc le fait, encore une fois, d'être très proactif, d'avoir une approche de communication de crise qui est planifiée, permet probablement d'éviter les écueils et du coup doit participer de la baisse de cet éco-silence. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a fait son boulot, comme tu l'as dit, une fois qu'on est très bien préparé, une fois qu'on anticipe un peu les choses, ben, y a pas de raison d'être silencieux. Il faut pouvoir après oser dire les choses. Donc voilà, donc à la fin, si on résume finalement notre approche par rapport à ça, c'est de dire voilà, benchmark, attente des cibles, mise en place des USP et puis des drivers, ou en tout cas des raisons de croire ces USP derrière avec les actions, éventuellement certification, amélioration continue et puis anticipation de la communication de crise. Et normalement, là déjà, on a un bon package pour pouvoir affronter les tempêtes qui peuvent s'annoncer.
Voilà. Alors, tout à fait, c'est un très bon point de départ. Peut-être pour terminer, avant de laisser nos auditeurs et les auditrices, quelques petits conseils ou quelques autres problématiques qu'on peut aborder rapidement. Il y en a une qui est l'éco-anxiété. On a parlé du fait que tout ce qui est en rapport avec l'environnement, avec le climat, voilà, ça concerne beaucoup de gens. C'est un sujet qu'on ne peut pas régler facilement avec un coup de baguette magique. Et du coup, ça génère beaucoup d'anxiété. Une des problématiques sur lesquelles on se penche régulièrement, c'est face à cette éco-anxiété, face à je préfère fermer les yeux, ne rien faire, parce que tout ce que je pourrais faire, finalement, ça ne servira pas grand-chose. Parce que je ne suis pas la personne qui génère le plus de pollution, par exemple. Voilà, quelle est l'approche qu'on peut conseiller à des entreprises sur viser concret, viser petit, étape par étape. Voilà, on ne va pas à travers l'activité que propose l'entreprise forcément sauver la planète en tant que telle, mais on peut améliorer à son niveau. Donc, je pense qu'il y a un aspect particulier dans ce domaine qui est cet aspect de prendre les choses au pas, à petits pas, et d'avancer, et avec ce que tu disais, François-Louis, je reviens là-dessus parce que j'aime beaucoup cette notion d'amélioration continue.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, on a ce sujet-là de l'éco-anxiété, et je dirais ça rejoint un autre élément, à mon avis, qui est aussi un paramètre particulier, vraiment un warning, c'est de garder aussi en tête que, en fait, c'est quand même bien d'avoir d'une manière ou d'une autre un peu un système de veille de l'opinion, de l'air du temps, des tendances, parce qu'on voit que ça se retourne quand même assez vite. Et donc, il ne faut pas partir bille en tête et puis après se dire, voilà, on est sur l'autoroute, etc. Les variations, elles sont quand même importantes. Donc, par exemple, on voit qu'entre aujourd'hui et puis il y a 2 ans en arrière, ou il y a 4 ans en arrière, il y a un peu moins d'unanimité sur les sujets. Je prends l'exemple des élections fédérales de l'année passée. Les élections précédentes, il y avait une énorme percée des Verts parce que ces dimensions climatiques étaient au cœur, en fait, du débat. Et on voit que la crise du Covid est passée par là, après les pénuries, l'inflation, etc., même si c'était atténué ici. Et on voit par exemple que les Verts étaient beaucoup moins en cours aux dernières élections fédérales. Donc il y a quand même des variations. Et si on a un décalage entre le discours qu'on a, encore une fois, et puis les attentes globales, en fait, on est à côté de la plaque. Donc c'est important aussi de bien mesurer ça, parce que ça va quand même assez vite. Et voilà, alors après, c'est pas du jour au lendemain, mais je veux dire, sur une année et demie, il y a quand même des choses qui changent. Et donc, le fait de pouvoir avoir cette approche de monitoring, de veille, c'est quelque chose qui est aussi important pour pouvoir ajuster la manière dont on parle et encore une fois, d'épouser au mieux les tendances et puis les attentes de à qui on parle, non pas pour faire des pas en avant ou en arrière, mais plutôt pour encore une fois de maximiser les chances que notre message y passe. Nous, c'est ça notre boulot à la fin, c'est qu'on comprenne en fait ce qu'on a envie de dire. Et donc, c'est assez important d'avoir ça en tête.
Alors, de mon côté, peut-être deux dernières idées que je voudrais lancer avant qu'on termine. Une première qui est dans la même idée de garder un pouls sur qu'est-ce qui se passe et de sentir comment la température évolue, c'est de bien s'entourer de partenaires. Les entreprises travaillent de temps en temps avec des partenaires, souvent avec des partenaires qui aiment bien ce qu'ils font, qui sont positifs. C'est important. Sur ce domaine-là, de s'entourer de beaucoup de partenaires et pas forcément que ceux qui sont d'accord sur tous les aspects. Puisque ça permet aussi de garder l'esprit ouvert par rapport à des problématiques qui sont peut-être pas une problématique pour l'entreprise d'aujourd'hui, mais qui le seront demain. Donc c'est encore plus important de garder cette oreille ouverte, j'allais dire les yeux ouverts, mais l'oreille en l'occurrence, bien de s'entourer de partenaires. De la même façon, et ça c'est peut-être mon deuxième et dernier point, c'est aussi de bien s'entourer en interne. Tout ce qui est communication sur les éléments de responsabilité, de durabilité, c'est pas quelque chose qu'une fonction devrait et peut faire seule. Ça doit demander beaucoup de collaboration en interne. Il y a beaucoup de fonctions qui peuvent et doivent contribuer. Et dans la pratique, il y a énormément de volonté, de gens qui ont envie d'aider, qui veulent savoir, qui veulent être partie prenante en interne de ces activités-là. Donc c'est vraiment un domaine sur lequel j'encouragerais les entreprises à faire sauter les silos, à ouvrir et à faire en sorte que toutes les fonctions puissent être représentées et être partie prenante d'approche sur ce domaine-là.
Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, peut-être pour conclure un dernier mot, dire que, enfin, mais je pense que vous l'aurez compris avec cette conversation qu'on a essayé d'être la plus claire possible, mais c'est en tout cas de se dire que voilà, ce sont des enjeux qui sont aujourd'hui au cœur des problématiques des institutions, des entreprises. C'est pas simplement une cerise sur le gâteau qu'on va pouvoir utiliser comme ça, mais qu'en fait, il faut vraiment le traiter de manière assez sérieuse, en profondeur, justement pour qu'après, il puisse y avoir des résultats qui sont des résultats escomptés en termes d'image, en termes de recrutement, en termes de business, évidemment. Et donc, par rapport à ça, la communication a un rôle à jouer qui est, selon nous, clé. Mais voilà, c'est notre rôle d'expert de le redire.
Merci beaucoup, François-Louis, pour cet échange sur un sujet qui est ô combien important et qui, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent s'en rendront compte, qui nous tient vraiment à cœur. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Et merci encore à LSA de nous avoir donné cette opportunité.
Merci, Anna. À bientôt.
Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.